Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de votre émission Bana Okapi sur Radio Okapi. Ce programme est dédié aux plus jeunes. Il est réalisé en partenariat avec l'UNICEF du lundi au vendredi de 15h30 à 17h. À l'échelle mondiale, un jeune âgé de 10 à 19 ans sur 7 souffre d'un trouble mental, ce qui représente 13% de la charge mondiale de morbidité dans cette tranche d'âge. La dépression, l'anxiété et les troubles du comportement, compris l'exposition à la pauvreté, à la maltraitance ou à la violence, sont parmi les principales causes de morbidité et d'invalidité chez les adolescents. Quel est l'état de santé mentale des adolescents en République démocratique du Congo? Nous faisons le point dans cette émission Bana Okapi. Émission mise en onde par Billy Landry, Bilabetou, Stanislas Diomi, c'est moi, à la présentation. Bonne condition d'écoute de votre émission. La santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Elle fait partie intégrante de la santé et du bien-être sur lesquelles reposent nos capacités individuelles et collectives à prendre des décisions, à nouer des relations et à bâtir le monde dans lequel nous vivons. Qu'en est-il de la santé mentale des adolescents et jeunes? Greta Lulindo.
À en croire l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 6 est âgée de 10 à 19 ans. Les changements physiques, émotionnels et sociaux, y compris l'exposition à la pauvreté, à la maltraitance ou à la violence, peuvent rendre les adolescents vulnérables aux troubles mentaux. De multiples facteurs ont une influence sur la santé mentale. Plus les facteurs de risque auxquels sont exposés les adolescents sont nombreux, plus l'impact potentiel sur leur santé mentale est important. Parmi les facteurs qui peuvent contribuer au stress de l'adolescence, il y a l'exposition de l'adversité, la pression pour se conformer à ses pairs et l'exploration de l'identité. L'influence des médias et les normes de genre peuvent exacerber la disparité entre la réalité vécue par un adolescent et ses perceptions ou aspirations pour l'avenir. D'autres déterminants importants de la santé mentale des adolescents sont la qualité de leur vie familiale et leur relation avec leur père. On sait que la violence, en particulier la violence sexuelle et le harcèlement, les pratiques éducatives sévères, les problèmes graves et les difficultés socio-économiques font peser un risque sur la santé mentale. Certains adolescents risquent davantage de souffrir de troubles mentaux en raison de leurs conditions de vie, de la stigmatisation, de la discrimination ou de l'exclusion, ou encore du manque d'accès à un accompagnement et à des services de qualité. Il s'agit notamment des adolescents vivant dans des conditions de crise humanitaire et de fragilité, des adolescents souffrant de maladies chroniques, de troubles du spectre autistique, d'un handicap intellectuel ou d'autres troubles neurologiques, des adolescentes enceintes, des parents adolescents ou des adolescents mariés de force ou à un âge précoce, des orphelins, ainsi que des adolescents issus des minorités ethniques ou sexuelles ou d'autres groupes de victimes de discrimination. Pour que les adolescents soient en bonne santé et se sentent bien pendant cette période de leur vie et à l'âge adulte, il est fondamental d'éviter qu'ils tombent dans des écueils, de mettre en avant l'apprentissage socio-affectif et le bien-être psychologique et de leur garantir un accès aux soins de santé mentale.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Quand composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Les chercheurs en psychologie positive montrent que des interventions axées sur le bien-être et émotionnel, le fonctionnement psychologique et social peut être efficace pour promouvoir la santé mentale. La jeunesse peut participer à ces initiatives en encourageant deux attitudes positives, la résilience et les soutiens mutuels. Après une conférence sur la sensibilisation à la santé mentale positive en République démocratique du Congo par la Fondation Doumazédière à l'Institut de religion de l'Université de Kinshasa, les jeunes étudiants que nous avons rencontrés pensent que les jeunes doivent mettre fin à l'alcoolisme, tabagisme et autres facteurs qui peuvent favoriser ou nuire à la santé mentale positive. Ils se sont exprimés à notre micro.
La santé mentale est un sujet très sensible chez tout le monde. En fait, ça n'arrive pas seulement aux plus âgés, mais aussi aux plus vieux. Ça ne concerne pas seulement la folie. C'est toutes ces choses-là qui englobent le comportement de la personne, en fait. On avait l'habitude de mépriser cela en se disant que ça n'arrive qu'aux vieux, c'est pas pour les enfants, mais on a compris même par des exemples qu'il y a eu des enfants de 3 ans qui ont eu à faire des AVC.
Bon, en parlant de santé mentale, il y a d'autres personnes qui disent que la santé mentale, c'est uniquement pour les fous, c'est uniquement pour des personnes qui ont des problèmes mentaux, alors que les problèmes mentaux touchent les enfants, les adultes ainsi que le vieux. Ce que nous devons comprendre est que nous devons être prévenus afin que nous puissions éviter les problèmes de santé mentaux car ça touche et ça laisse des séquelles. Il y a d'autres qui handicapent des visions et les futurs, nés des enfants, des adultes ainsi que le vieux. D'abord, ce que nous devons savoir est que les AVC touchent notre race, c'est-à-dire la race noire. Et ici, en Afrique, nous avons un climat, précisément ici en RDC, nous avons un climat tropicalement chaud. Et ça fait partie des risques des AVC. Et en plus de ça, il y a aussi les climats. Les climats aussi, ça fait partie de risques. Alors, ce que nous devons retenir pour éviter les accidents vasculaires cérébraux, nous devons d'abord, premièrement, prélever notre tension artérielle ne fût-ce qu'une fois le mois. Et à part ça, le tabagisme. Moi, je vois beaucoup. Il y a des jeunes qui prennent le tabac, genre tumbaku, l'alcool, genre boma maman, matakita, tout ça. Ce sont les facteurs de risque favorisant l'AVC. Nous devons comprendre que l'AVC, le rétablissement de l'AVC n'est pas à 100%. Imaginez-vous un enfant de 10 ans subit un AVC. Quel serait son futur? C'est à risque. Un jeune de 25 ans qui a subi un AVC. Imaginez-vous son futur? C'est à risque parce que l'AVC laisse de séquelles. L'AVC handicape la vision, l'AVC handicape nos foyers, l'AVC handicape la société ainsi que toute une vie. Alors voilà pourquoi nous devons lutter contre l'AVC. Non seulement lutter, nous devons prévenir. Et si par exemple ça arrive par rapport à nos vieux, nous devons prendre ça en charge.
Premièrement, il faut savoir que la santé mentale touche tout le monde. Peu importe qu'on soit bébé, grand, vieux, vieillard, on est tous touchés par la santé mentale. On peut tous être affectés, tous être impactés par la santé mentale. Et c'est un peu ce que le docteur a voulu nous interpeller. Parce que avant, on pensait plus que la santé mentale touchait qu'à une certaine catégorie de personnes ou des personnes qu'on appelle des fous. Alors que ça n'intéresse pas que ces genres de personnes, ça intéresse tout le monde. Comme certains le disent, on est pratiquement tous fous si on essaie de creuser. Il a plus parlé de l'alcool parce que c'est la première des choses qui est à la base de ces genres de problèmes d'accidents cérébraux. Ouais. Donc c'est plus l'alcool. Mais aussi il y a un élément que la plupart de jeunes utilisent, ce sont les stimulants. Et c'est aussi à la base de plusieurs problèmes et aujourd'hui, on doit vraiment marteler sur ces problèmes-là parce que c'est vraiment un problème général de quinoa. Ouais, on doit savoir quelles sont les conséquences de ce qu'on est en train de faire. Parce qu'en prenant les stimulants et en abusant avec l'alcool, même si le docteur nous a montré aussi que même la petite dose d'alcool peut aussi impacter la santé mentale, les stimulants sont encore pires parce que les stimulants, après, ça crée des problèmes dans la tête, vous savez mal. Ce sont des choses qui sont déjà comme des éléments d'alerte pour que les gens puissent savoir que en le prenant, vous êtes en train de d'être exposé aux AVC plus facilement que d'autres.
Les problèmes de santé mentale ne touchent pas seulement des grandes personnes, ça touche aussi des jeunes personnes, un peu comme moi. Le docteur, il a parlé de beaucoup des facteurs où je me suis même reconnu et il a donné aussi beaucoup de conseils qui vont beaucoup m'aider, surtout avec la prise de l'alcool déjà.
Comme quel conseil ?
La prise de l'alcool. déjà que moi je suis jeune et je suis aussi un peu, on va pas dire alcoolique, mais je suis un peu alcoolique et il m'a montré que avec l'alcool, je suis en train de me détruire encore. Du coup, je devrais diminuer avec ça ou parfois même m'arrêter, surtout avec le tabagisme. J'ai aussi cette habitude-là de pouvoir prendre un peu de tabagisme. En tout cas, je dois arrêter avec cela pour ma santé mentale.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
L'apport des jeunes congolais sur la promotion de la santé mentale positive n'est pas considérable. En République démocratique du Congo, les jeunes n'ont pas l'habitude de se renseigner sur l'état de leur santé mentale. Soutient M. Antoine Béchindo. Il s'entretient avec Grâce Mvuzolo.
Qu'entendez-vous par santé mentale ?
En fait, la santé mentale, c'est, on peut dire que c'est le fonctionnement du coefficient intellectuel de quelqu'un, d'un homme, d'une personne en soi. Ce qu'on peut dire, c'est donc le fonctionnement normal de son bagage intellectuel, de sa mentalité, de sa capacité à proposer une très bonne réflexion.
Qu'est-ce qui affecte la santé mentale chez les jeunes ?
Aujourd'hui, on peut dire que dans notre société, ou soit dans le microcosme intellectuel, ce qui affecte la santé mentale, ce sont des substances toxiques que les jeunes s'adonnent à prendre. Pas seulement les jeunes, il y a aussi des vieux qui s'adonnent à ces choses-là. Je peux dire, c'est bon nombre de ces choses-là, les bombées, surtout les drogues, cet afflux de drogues aujourd'hui à Kinshasa, on peut dire que ce sont des substances qui affectent la santé mentale.
Est-ce que les jeunes ont l'habitude de se renseigner sur leur santé mentale et pourquoi?
Ah, c'est une minorité vraiment qui se renseigne sur la santé mentale. Ce ne sont pas tous les jeunes qui se renseignent sur la santé mentale, mais ce sont plutôt une particularité, une classe de la jeunesse qui se renseigne sur la santé mentale. Ce n'est pas vraiment tout le monde. Ce n'est pas la peur de tous.
Et pourquoi?
Tout simplement parce que certaines personnes n'ont pas d'abord confiance en eux. Ils ne connaissent pas ce que vaut la santé mentale pour la jeunesse et aussi pour un pays. Pour connaître la santé mentale, il faut avoir la confiance en soi, il faut avoir une dimension ou être au niveau des intellectuels pour pouvoir penser que la santé mentale c'est une bonne chose. Il faut reconnaître d'abord les concepts pour savoir ensuite son utilité. Quand vous ignorez la définition du concept, du coup vous ignorez même son utilisation et son importance pour la société.
Et quel est l'apport de la jeunesse dans la promotion de la santé mentale positive en République démocratique du Congo?
L'apport de la jeunesse dans l'évolution de la santé mentale en République démocratique du Congo, on ne peut pas dire que cet apport est grand. Elle est minime dans ce sens où cette jeunesse ne connaît même pas aujourd'hui ce que c'est la santé mentale. Nous avons à peine relevé que c'est la santé mentale pour les jeunes, ce n'était pas un grand nombre de ces jeunes-là qui maîtrisaient la santé mentale. Qu'est-ce que cela vaut, qu'est-ce que cela signifie pour tout un pays qui doit avoir des valeurs, qui doit promouvoir des valeurs. C'est-à-dire que cet apport, il n'est pas considérable plutôt, mais il y a une minorité quand même de jeunes qui ont confiance en soi, qui font des choses à pouvoir promouvoir cette santé mentale. Donc, en gros, je veux dire que cet apport n'est pas un apport vraiment considérable.
Avez-vous un message à lancer aux jeunes comme vous sur la santé mentale?
Le message à lancer aux jeunes, c'est l'appel à la conscience de soi. Je lance vraiment un appel aux jeunes à pouvoir s'intégrer dans le monde intellectuel, à pouvoir penser, à pouvoir mettre en place des mécanismes pour pouvoir accroître leur santé mentale et pour garder, pour ceux qui en ont déjà, pour garder déjà cette santé mentale, pourquoi pas, et de la rendre un peu à un niveau énorme. C'est ce que je peux dire parce que ça aidera la nation. Ça aidera même le monde aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, le monde, c'est un monde de gens qui réfléchissent, un monde de gens qui sont capables de proposer des choses qui relèvent de la raison. Ce que je peux dire, c'est appeler les jeunes à se mobiliser, appeler les jeunes à s'instruire davantage. Voilà ce que je peux vous dire en quelque sorte.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bana Okapi se poursuit sur nos antennes. La dépression, l'anxiété et les troubles du comportement, compris l'exposition à la pauvreté, à la maltraitance ou à la violence, sont parmi les principales causes de morbidité et d'invalidité chez les adolescents. Quel est l'état de santé mentale des adolescents en République démocratique du Congo? Nous en parlons encore dans cette deuxième partie de votre émission. Bienvenue à tous. Plusieurs personnes confondent la santé mentale de la maladie mentale. Dans ce studio, nous avons reçu le docteur Doumazidière Kabasele, coach en santé mentale et responsable de la fondation qui porte son nom. Docteur Doumazidière, que peut-on retenir de la santé mentale?
Aujourd'hui, les gens pensent que la santé mentale égale maladie mentale. Les premiers mots avec les Congolais, ils pensent qu'ils ont l'iboma. Mais la santé mentale, c'est au-delà des maladies mentales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes là pour pouvoir promouvoir un état de bien-être psychologique, un état de bien-être mental et un bien-être physique. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la santé mentale. La capacité de pouvoir gérer le stress, c'est notre santé mentale positive. La manière de pouvoir faire face aux difficultés, la manière de pouvoir être capable d'apprendre de nouvelles capacités, que ce soit technologique, physique, c'est ce qu'on appelle une santé mentale positive.
Et qu'est-ce que vous faites justement pour mobiliser la jeunesse à s'approprier de cette thématique?
Nous faisons des conférences dans des églises, dans des universités. Comme vous avez vu aujourd'hui, c'est un cadre universitaire. Nous sommes venus animer cette conférence pour aider la jeunesse à comprendre que notre santé mentale, c'est notre priorité. Nous devons être la première personne à pouvoir promouvoir cette santé mentale. Sans nous, nous allons nous engloutir et nous n'allons pas progresser. Et nous aidons des jeunes à développer une attitude qui sera bien pour eux-mêmes.
Vous avez parlé de la santé mentale positive et négative. Qu'est-ce que nos auditeurs peuvent retenir?
La santé mentale positive, c'est même la définition de la santé mentale. La résilience, le fait de pouvoir aller de l'avant. La santé mentale négative, c'est là où les personnes pensent que tout est parti, tout n'est plus encore intact. C'est là où les gens développent la dépression, ils ne savent pas gérer le stress ou bien l'anxiété. C'est ça qu'on appelle la santé mentale négative. Les personnes qui ne voient pas la vie de manière optimiste, les personnes qui se limitent seulement à ne pas prendre soin d'eux, les personnes qui n'arrivent pas à gérer le stress ou bien les personnes qui n'ont pas le sens d'être dans une communauté, ça, on parle d'une santé mentale négative.
À vous entendre parler pendant la conférence, vous avez beaucoup plus mis l'accent sur l'AVC. Quels sont les facteurs qui favorisent cette maladie qui tue, non seulement les vieux, mais aussi les jeunes?
Quand quelqu'un développe une santé mentale négative, l'une des facteurs qui peuvent les induire à développer, c'est l'AVC. Pourquoi? Parce que tant que la pression artérielle n'est pas contrôlée, quand on parle de la pression artérielle, le terme plus simple, c'est la tension. Quand nous avons une tension qui est tellement élevée dans l'organisme, à ce moment-là, on peut développer ce qu'on appelle un AVC. Pas seulement la tension, d'autres facteurs qui nous aident à développer un accident vasculaire cérébral, nous avons le taux de sucre élevé. Les termes les plus courants médicaux qu'on parle du diabète. À part le taux de sucre élevé, nous avons le taux de cholestérol élevé. À part le taux de cholestérol élevé, les personnes qui utilisent des substances très toxiques pour le cerveau, telles que l'alcool, la drogue, toutes les autres choses, nous aident à pouvoir développer ce qu'on appelle un AVC. Nous devons stopper exactement la prise du tabagisme ou bien la prise de toutes les substances très toxiques pour le cerveau.
Et à part ça, vous avez mis un accent très particulier sur la gestion de stress. Et c'est ce qui ronge même la plupart des jeunes à Kinshasa, surtout où nous nous trouvons. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de la gestion de stress?
Les moments les plus difficiles pour nous, c'est la gestion du stress. Beaucoup d'entre nous ne savons pas gérer notre stress. Comment nous ne savons pas gérer le stress? Parce que soit nous ne connaissons pas exactement c'est quoi notre stress, c'est quoi notre priorité. La première chose, nous devons savoir mettre des priorités dans nos vies. Et après avoir mis des priorités dans nos vies, comment gérer le stress? S'il y a un problème, nous devons développer certaines techniques, telles que la relaxation. Beaucoup d'entre nous ne savons pas c'est quoi cette relaxation. Être relaxé ou bien accepter que tout peut aller mal ou bien tout peut aller bien. Après la relaxation, nous devons développer ce qu'on appelle une respiration profonde. C'est une technique qui nous permet aussi de gérer le stress. C'est quoi cette technique profonde? Nous devons faire ce qu'on appelle l'inspiration, retenir la respiration pendant 3-4 secondes et puis faire cette inspiration. À part ça, nous devons aussi savoir exactement faire des priorités dans nos vies. Si nous ne savons pas faire les priorités dans nos vies, il y aura du mal à gérer des stress.
Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes par rapport à la santé mentale?
Ce que je peux conseiller aux jeunes pour la santé mentale, premièrement, nous devons accepter tout ce qui se passe dans notre vie. C'est la première chose que nous devons accepter. La deuxième chose, nous devons chercher à mettre des priorités dans nos vies. La troisième chose, nous devons avoir cette assurance de la maîtrise de notre vie et de nos décisions personnelles. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas cette maîtrise de leur propre vie. Ils ne savent pas prendre des décisions personnelles. Et la dernière chose que je conseille aux gens toujours, il faut savoir s'adapter à toutes circonstances.
Merci, docteur.
Merci beaucoup.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Les professeurs Moukao Ebouel, spécialiste en santé mentale chez l'enfant et l'adolescent, affirment que les problèmes de santé mentale est une réalité chez les enfants et les adolescents. Cela atteint plusieurs adolescents qui se livrent à la consommation des drogues ou autres substances qui créent la dépendance et finissent par devenir des troubles mentaux. Il s'entretient avec Sarah Sumbila.
Ben oui, le problème de santé mentale est une réalité hein, chez les enfants ou les adolescents. Dans la manière où la santé mentale ou la perturbation de la santé mentale entame beaucoup la santé mentale des enfants, que ce soit dans la petite enfance ou lorsque l'enfant grandit, qu'on dit que l'enfant est adolescent. Cela a beaucoup d'impact dans le devenir des enfants. L'impact peut s'observer dans la vie sociale et l'impact s'observe également dans la vie scolaire et également dans la vie psychique, dans la vie personnelle, hein, et ce qu'on appelle l'estime de soi de l'enfant lui-même. Ça perturbe l'estime de soi de l'enfant lui-même et ce qui fait que dans la majorité des cas, les enfants ou les adolescents ont besoin d'une prise en charge appropriée. Et lorsque la santé mentale est entamée.
Quels sont les problèmes de santé mentale le plus courant chez les enfants?
Les problèmes de santé mentale le plus courant chez les enfants, et si on peut parler d'abord des adolescents, chez les adolescents, les problèmes de santé mentale qu'on observe le plus souvent, c'est la consommation, par exemple, des substances psychoactives, hein, des substances psychoactives. Certains enfants ou adolescents arrivent à consommer les substances psychoactives par essai, par curiosité, mais alors ça peut arriver également que la consommation puisse aller jusqu'à l'accoutumance ou jusqu'à devenir une addiction chez eux. Et d'autres problèmes, c'est les troubles du comportement ou les troubles de conduite. Le trouble de conduite, ça peut se manifester par des comportements perturbateurs, des comportements perturbateurs du type non-respect des normes, ou alors vous verrez l'enfant qui va jusqu'à aller poser des actes qui sont pas autorisés par la société, notamment la pédophilie, la zoophilie. Donc on trouvera également des comportements et qui vont être perturbateurs avec impact au niveau du rendement scolaire, des troubles de comportement du type agressivité, Et c'est comme ça qu'on peut recruter parmi les gens qu'on appelle des coulounas, certains adolescents qui n'ont pas pu avoir la chance d'être maîtrisés ou de maîtriser leurs émotions, et au fur et à mesure qu'ils grandissaient et qu'ils confrontaient leur comportement avec les réalités sociales. Voilà un peu certains problèmes qu'on peut rencontrer chez les...
Comment savoir si son enfant développe un problème mental?
Ben oui, d'abord lorsqu'on parle de problème mental ou de troubles psychologiques, c'est toujours à comparer avec la norme. Hein. Il faudra bien comparer ça avec la norme sociale. Et chaque société a des normes, chaque famille a des normes, l'école a des normes. Donc partout où l'enfant vit, il y a toujours des normes. Maintenant, l'obéissance à la norme, on dira bien qu'il s'adapte bien à la norme, il s'adapte bien, il se comporte bien, c'est ça, on parle de la normalité, mais également, c'est donc en psychologie, en psychopathologie, nous parlons du normal et des pathologies, et parce qu'il y a des comportements qui sont acceptés dans une société et d'autres, le même comportement n'est pas accepté dans une autre société. Mais lorsqu'on dit est-ce que l'enfant a des problèmes de santé mentale, c'est lorsque la quiétude au niveau du comportement, l'enfant n'est pas malade, mais on voit bien que son problème et sa vie mentale, sa vie psychique est perturbée. Il n'arrive pas à se comporter normalement comme le veut la société. Les actes qu'il pose ne sont pas des actes acceptés par la société. Voilà. Et là, directement, on voit, ben, il y a un problème de santé mentale chez l'enfant. Il y a, par exemple, certains enfants qui développent une anxiété beaucoup plus sévère, et ben, développent également pour d'autres, avec la consommation de substances psychoactives, ou alors, non seulement la consommation, mais même, le fait d'être déçu simplement, peut faire que l'enfant développe un comportement avec la symptomatologie dépressive. Donc il devient beaucoup plus pensif, il devient concentré à un même problème et ça perturbe même la réalité de vue et le paradigme de vue est modifié chez l'enfant. Et les parents, par exemple, en famille vont directement remarquer que cet enfant ne vit plus comme il était avant, il n'observe plus, il n'a plus l'observance des normes. Il n'a plus l'observance des principes, donc de la société, de la famille, de l'école. Et on verra même aussi ça au niveau de l'école que le comportement n'est plus normal. Voilà. Donc là déjà, ce sont des inquiétudes. On voit par exemple pour certains, ils se voient se livrer à la consommation de l'alcool, la consommation d'autres substances, des substances illicites qui sont défendues. Voilà, l'enfant se livre à cela. Et ça peut aller jusque même à la manifestation de troubles de comportement, le trouble de comportement avec passage à l'acte.
Professeur, voilà. Vous avez parlé de la pédophilie et le phénomène Colonna comme le problème de santé mentale. Oui. Comment peut-on soigner cela?
Oui. Ben, lorsque l'enfant a des troubles de conduite, évidemment, dans notre société au Congo, la pédophilie, même l'homosexualité, bon, c'est vrai, on appelle ça. L'homosexualité, avant, c'était considéré comme étant un trouble de comportement, c'est comme étant un trouble pathologique. Mais actuellement, sur le plan scientifique, l'homosexualité n'est plus un trouble de personnalité, hein. Donc, ça fait partie des comportements normaux. Mais quand on parle de la zoophilie ou l'attirance que l'enfant a vers les animaux, ou l'attirance qu'on a vers les petits enfants, c'est ça qu'on appelle. Lorsque on a l'attirance sexuelle vers les animaux, on parle d'ésophilie. Mais lorsqu'on a l'attirance sexuelle vers les plus petits enfants, on parle de la pédophilie. Comment soigner cela? Ben, c'est tout un processus, c'est toute une approche qu'on met en place pour soigner ces enfants. Parmi les approches, et puis évidemment, ça dépend de quand cela a commencé, ça dépend des raisons, ça dépend de l'anamnèse qu'on fera pour essayer de poser ce diagnostic-là. Il y a beaucoup d'approches. Hein. On peut parler de l'approche cognitivo-comportementale, c'est-à-dire que l'approche cognitivo-comportementale, c'est une approche qui est basée sur le fait que le comportement de l'enfant ou l'acte que l'enfant pose est fonction de la représentation mentale qu'il a, n'est-ce pas, de de la sexualité et des animaux. En ce moment, on va basculer vers une approche psychanalytique. Mais si, par exemple, il se livre dans la zoophilie ou dans la pédophilie, parce qu'il est dans un groupe de bandes, là, on fera la systémique. Donc, on pourra voir si la systémique peut tenir ou bien c'est une psychothérapie individuelle. Bon, voilà. Là, je suis allé dans certaines approches qu'on peut mettre sur pied en psychopathologie clinique, lorsqu'on fait la prise en, on assure la prise en charge des enfants qui ont des troubles de conduite.
Un enfant ou un adolescent, professeur, qui a dû faire face aux problèmes de santé mentale, est-ce que les conséquences se font encore sentir jusqu'à l'âge adulte?
Ben oui, donc imaginez quelqu'un qui manifeste une carence affective importante. La carence affective importante, on vit pas ça pendant à l'âge adulte. La carence affective importante, ça se développe au fur et à mesure que l'enfant évolue et qu'il se développe. Par exemple, c'est une carence affective qui est liée à l'absence de la mère ou à l'absence du père. Le père ou la mère, les deux personnalités ont une importance, sont d'une importance capitale dans le développement de l'enfant. Eh bien, lorsque dans le développement de l'enfant, il y a une carence affective maternelle, alors qu'il en avait besoin à partir de 3 mois, et voilà, il n'a pas vu sa mère, évidemment, ça va bien marquer l'enfant. Et puis, les répercussions, on verra ça dans le futur. Dans le futur, on verra bien la représentation mentale que cet enfant aura des femmes. C'est comme ça que on constate beaucoup de problèmes de comportement chez les adultes, mais l'explication des troubles de comportement ou des troubles de personnalité chez les adultes, l'explication, il faudrait bien rechercher ça pendant la petite enfance. Et pourquoi? Parce que nous partons du principe selon lequel les premières relations affectives de l'enfant avec sa mère constituent la charnière du développement futur de la personne. C'est-à-dire que lorsque l'enfant n'a pas vécu dans un bon environnement social avec sa mère, évidemment, lorsque l'enfant n'a pas bénéficié d'une affection maternelle, l'affection paternelle, l'enfant peut vivre dans des situations de carence et qui vont se manifester au fur et à mesure dans sa vie future. Bien sûr que l'environnement peut compenser, l'environnement social, l'environnement de vie peut compenser, mais si il y a cette carence-là, il y aura des répercussions dans la vie future, les répercussions s'observeront.
Radio Capi, le souffle du Congo.
Les maladies mentales chez les enfants viennent de plusieurs causes, entre autres l'hérédité et les infections. Certains troubles mentaux sont provoqués par un développement cérébral anormal. Pour le docteur neuropsychiatre Aline Jukenji et professeur à l'université de Kinshasa au centre neuropsychopathologique, CNPP en sigle, il est possible de soigner les maladies mentales et les stabiliser. Il a été joint au téléphone par Sarah Sumbila.
Guérir, vous savez, quand vous utilisez ce verbe, le médecin, même quand il fait serment, il ne guérit pas, il soigne. La guérison, c'est quelque chose qui peut venir, mais le médecin au moins peut soigner, et on peut soigner les malades, n'importe quelle maladie mentale, et même stabiliser.
Comment détecter tôt la maladie mentale chez l'enfant?
Pour détecter, il y a des indicateurs. Vous savez, déjà à la naissance, nous partons d'une approche biopsychosociale. Ce qui est biologique, c'est l'organe qui est sur le plan physique. On peut déjà voir si l'enfant est né, si l'enfant a des malformations, ainsi de suite. Ça, on peut déjà identifier les problèmes que l'enfant peut avoir. Sur le plan psychologique, c'est lors des interactions que l'enfant aura avec son entourage. Par exemple, un enfant qui naît, qui ne sait pas fixer le regard, un enfant qu'on peut laisser dans le berceau toute une journée sans pleurer, qui n'exprime pas ses besoins, qui n'exprime pas ses émotions. Et cet enfant, sur le plan psychologique, on peut déjà identifier que cet enfant a des problèmes. Aussi, sur le plan social, c'est-à-dire, là, on évalue un peu les troubles de la socialisation. Un enfant qui ne respecte pas la loi, un enfant qui ne respecte pas les adultes, qui ne respecte pas les biens communs. Ça, on peut déjà identifier les problèmes de santé mentale que présenterait un enfant.
Docteur, y a-t-il des maladies mentales qui sont congénitales?
Oui, comme toute autre maladie. Vous savez, c'est pourquoi quand nous parlons de l'approche biopsychosociale, ça englobe en réalité tout. Il y a des maladies sur le plan biologique. Quelqu'un peut présenter une maladie ou comme l'approche comme une avenue héréditaire, puisque le papa a présenté telle maladie ou telle autre, ou la maman. L'enfant aussi peut présenter la même maladie, rien que par le fait qu'il soit né de ses parents-là. Donc l'hérédité, certaines maladies mentales sont aussi héréditaires.
Quelles sont les maladies mentales les plus répandues dans la petite enfance?
Hormis les maladies qu'on peut déjà identifier par une maladie physique, où on peut voir déjà à partir de la naissance par rapport à la physique, par rapport au cerveau, aux anomalies qui sont visibles. Il y a par exemple la trisomie 21, les maladies génétiques qu'on peut identifier rien que par le faciès de l'enfant. Et ces maladies ne sont pas seulement identifiées ailleurs, on peut même les identifier avant même la naissance, pendant la vie utérine, par des tests. Mais déjà à la naissance, on peut voir le faciès de l'enfant. Il y a la trisomie 21 qu'on peut déjà identifier. Il y a certains comportements désorganisés qu'on peut voir. Il y a l'épilepsie qu'on se voit aussi chez l'enfant, même si les crises au départ ne sont pas des crises spectaculaires tonico-cloniques. On peut avoir des enfants qui présentent des sursauts qui peuvent déjà orienter vers une maladie comme l'épilepsie.
En dehors de l'épilepsie et la trisomie, il n'y a pas autre maladie congénitale qu'on peut déjà détecter dès la naissance de l'enfant?
Dès la naissance? Mais non, il y a, quand je dis des maladies génétiques, parce que les maladies qu'on doit déterminer dès la naissance, ce sont des maladies qui n'ont pas commencé à la naissance, ce sont des maladies génétiques les plus souvent. Donc il y a plusieurs maladies, mais par contre les maladies comme l'autisme, ça peut être aussi congénital, génétique, mais c'est difficile qu'au début on puisse identifier parce que ce sont des enfants qui naissent tout à fait normal, et ils évoluent normalement. C'est plutôt au-delà des 3 ans qu'on voit plus que sur le plan des interactions sociales, et l'enfant n'interagit pas. Les parents croient parfois que l'enfant n'entend pas, il y a un retard de langage, on croit qu'il n'entend pas, on l'amène chez l'oreilliste, alors que l'oreilliste fait l'audiométrie, trouve que non, l'enfant entend. Et il y a un élément paradoxal, le fait qu'on dit que l'enfant ne parle pas, ou il n'entend pas, mais par moment on peut surprendre l'enfant en train de chanter, par moment il peut appeler maman. Donc c'est ça l'effet paradoxal, en réalité les parents doutent. Or, l'enfant peut parler, mais au moins il n'a pas des troubles de la communication. Il a des troubles plutôt de la communication. Il a le langage, mais il ne communique pas. En plus de cela, il y a le retrait social. Les interactions interpersonnelles n'existent pas. Ça, c'est pour l'autisme qu'on ne va pas identifier dès la naissance parce qu'il n'y a pas un faciès particulier. Mais plusieurs maladies génétiques, on peut citer plusieurs maladies, on peut voir déjà à la naissance.
En dehors de l'hérédité, quelles sont les autres causes des maladies mentales?
Ouais, à part l'hérédité, vous avez les infections. Il y a ces enfants qui sont nés normalement, mais qui présentent certaines infections. Il y a des enfants qui présentent parfois la méningite, l'enfant qui pouvait évoluer normalement, mais suite à la méningite, à une encéphalopathie, il va présenter une certaine régression par rapport à son développement, surtout sur le plan psychomoteur. On peut voir ça. Il y a les avenues métaboliques. Il y a ces enfants qui naissent déjà avec un diabète, l'enfant qui naît. Moi, j'ai déjà reçu un enfant de 2 ans qui présente déjà le diabète, mais déjà, on ne s'en rend pas compte. Mais on s'en est rendu compte quand l'enfant a convulsé. Donc, il y a les infections, il y a les maladies métaboliques, il y a les maladies liées, les toxiques, des intoxications. Vous savez, un enfant qui naît, par exemple, d'une mère alcoolique, ces enfants naissent souvent avec une certaine hypotrophie. C'est un enfant de faible poids. Et parfois, ils ont même des problèmes, ils vont naître par exemple prématurément, ils ont même des problèmes pour leur développement sur le plan psychomoteur ou un développement global. Donc, le fait que la maman consomme, ça c'est aussi un avenue toxique. Il y a aussi des facteurs environnementaux. Vous savez, un enfant peut naître qui n'a pas de problème, mais l'environnement peut faire que l'enfant puisse présenter d'autres problèmes. Et quand on parle de l'environnement, il n'y a pas que l'environnement physique, on peut dire les intempéries, ceci. Il y a aussi et surtout, c'est à quoi on n'accorde pas beaucoup d'importance, c'est l'environnement psychosocial. L'environnement là où naît l'enfant, la structure de la famille. Est-ce que son père est vivant? Est-ce que les interactions que l'enfant a avec sa mère, l'attachement, son père et les autres membres de la famille, ça peut faire en ce moment que l'enfant pose problème et les manifestations, les premières manifestations d'un problème de santé mentale seront à ce moment-là les manifestations sociales, les interactions avec les gens, le problème avec la loi, les prend avec lui-même ou les prend avec l'environnement ou les autres.
C'est par ici que prend fin votre magazine Bana Okapi sur Radio Okapi. La santé mentale des adolescents en République démocratique du Congo était au centre de ce magazine Bana Okapi. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net et sur la page Facebook de Bana Okapi. Greta Lulendo, Jeff Opela, Sarah Sumbila et Grasso Mvuezolo ont coproduit ce magazine. Gisèle Kaj était à la réalisation sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Mise en onde de Billy Landry Bilabetou. Une présentation de votre serviteur Stanislas Diomi. Très bonne suite de programmes sur Radio Okapi. Le prochain numéro de Bana Okapi, c'est le jeudi 2 mai. D'avance, bonne fête de travail à toutes et à tous. Bye bye!